Bonjour à toutes et à tous. Nous avons décidé, comme manœuvre propitiatoire pour faire arriver plus vite ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, de commencer. Je me présente, Michel Bois, je suis responsable à l'INRP du service formation et j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du directeur qui n'était pas disponible pour venir ce matin. J'en profite pour dire deux mots du service dont je viens de parler. Cela fait 3 ans que l'INRP se préoccupe de formation de formateurs de façon tant soit peu systématique. Et je dirais que le raisonnement qui nous préoccupe est un raisonnement en termes de services rendus. Je pense que l'appellation de service formation convient de ce point de vue-là. Nous avons connu une montée en charge progressive. Bon, ça ne surprendra personne. Et si je prends un événement récent qui était la réunion à fin de semaine dernière que nous avons eu, une réunion de régulation avec les correspondants académiques de l'INRP, des correspondants, pas tous bien sûr, avec des coordonnateurs de pôle IUFM puisque ce sont nos principaux partenaires, nous a permis de faire le point et de voir qu'en année courante nous accueillons à peu près 600 participants dans nos formations. Et que sur l'année qui va s'achever bientôt, nous aurons fait 18 séminaires de formation. Le public, c'est vous, bien sûr, c'est-à-dire des formateurs IUFM, des cadres académiques. Alors nous mettons dans cette catégorie un peu floue, en l'occurrence, des chefs d'établissement, des personnels engagés dans tel ou tel domaine de la formation continue, bien entendu les corps d'inspection, des coordonnateurs REP, etc. Et puis des enseignants. Les frontières, donc, entre ces catégories, mais ça me paraît pas dommageable, sont un peu floues, et bon, ce flou est peut-être productif, finalement. L'an prochain, nous envisageons, donc, suite à cette réunion de régulation, de faire 10 de formations de plus, et là, je pense que nous serons, comme on dit, probablement au taquet. Bon, c'est difficile de le savoir avant de l'avoir expérimenté, mais on a quelques craintes de ce côté-là. On verra bien. Alors, je parle maintenant de cette formation qui nous réunit. Elle a été montée à l'initiative de l'UMR Éducation et Politique, dont le responsable est à ma gauche et vous dira un mot tout à l'heure. Et dans cette UMR, plus spécifiquement, c'est Romuald Normand, donc, qui a été la cheville ouvrière. Alors, il y a eu quelques tribulations. Hein. Nous avons un accord cadre avec le ZEN. C'est pas la source des tribulations, mais le ZEN qui se préoccupe au premier chef, bien sûr, de la formation permanente, entre autres des cadres académiques, dans un sens d'ailleurs plus strict que celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, cette formation était d'abord localisée à Poitiers. Ceux qui se sont inscrits au début ont eu vent de ces changements. Et puis, on a décidé, pour des raisons de commodité, de la faire à Lyon, donc c'est à Lyon. En revanche, nous avons tenu ferme sur les dates. Alors, je me vote satisfait de ce côté-là. Éric Larcher, qui est un des responsables de la formation permanente à Lezenne, qui est là-bas, juste sur la diagonale, sera avec nous pendant ces 2 jours. Il interviendra le dernier après-midi au sein de la table ronde. Disons que la délocalisation ou la relocalisation, je ne sais pas, l'a obligé à se déplacer. Je le remercie d'être venu, malgré tout, avec nous. Dans le service rendu que j'évoquais tout à l'heure, il y a le séminaire de formation, qu'on pourrait appeler un service après-recherche, pour faire très très vite. Hein. Et puis après le séminaire de formation, il y a une mise en ligne systématique de l'ensemble des interventions qui ont lieu en plénière, y compris les débats, avec l'accord bien entendu des intervenants, et parfois aussi des ateliers lorsqu'ils s'y prêtent. Donc ça, vous pouvez aller vérifier sur notre site, toutes les formations qui ont eu lieu depuis le début de l'année ont donné lieu à ce travail. Alors il faut un petit délai parce que, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en ligne, je ne vais pas vous ennuyer avec des détails techniques, mais du son et un diaporama, il y a un travail de montage à faire qu'assure Jérôme Falda, alors c'est l'autre diagonale là-bas, dans notre équipe. Un travail de remontage, mais disons que d'ici 15 jours, vous aurez une trace sonore et illustrée de ces 2 journées. C'est à la fois pour nous une façon d'élargir le public. J'avoue que je suis surpris. Alors, il faudrait aller regarder en détail du nombre de connexions qui suit chaque formation. Bon, c'est beaucoup plus que je ne pensais. Je suis pas sûr qu'ils téléchargent tous pour écouter dans leur voiture les conférences. Hein. Il faudrait aller regarder un peu plus. Mais tout de même, c'est un élargissement du public. Et pour vous, je crois qu'il faut le prendre comme un élément de confort. C'est-à-dire que, au lieu de gratter très fort sur certains diaporamas, vous pouvez avoir l'assurance que vous retrouverez tous ces documents en ligne dans un délai de, disons, 2 semaines. D'ici à 2 semaines, vous aurez tout ça à votre disposition. Il me reste à remercier tous les participants. Ils ne sont pas encore tous là, mais je pense que les derniers vont arriver bientôt. Remercier Romuald Normand, évidemment, qui, comme je le disais tout à l'heure, était la cheville ouvrière de ces 2 journées. Et puis, bien sûr, tous ceux qui ont accepté de nous apporter leur aide, qui sont soit des chercheurs, comme Pierre Vrignaud, comme Martine Raymond, comme Bruno Garnier, comme Yvon Thévenot, ou des membres des corps d'inspection, des chefs d'établissement. Alors, ils ne sont pas tous là encore. Certains arriveront demain. J'ai cité Florence Robin, Roger-François Gauthier, Éric Larcher, donc déjà nommé, et Francis Béguin, qui est avec nous, qui est chef d'établissement. Je vous souhaite 2 journées stimulantes et enrichissantes. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Simplement, le dernier après-midi, nous vous ferons passer un questionnaire classique d'évaluation à chaud pour savoir si vous partagez ce point de vue. Et puis, bon, ça permet quand même de nuancer un peu son appréciation. Donc, merci de bien vouloir remplir ce questionnaire lorsqu'on vous le fera circuler. Encore une fois, je vous souhaite 2 bonnes journées. Et je laisse la parole à Jean-Louis Derouet qui va parler pour l'UMR Éducation et Politique.
Bon, merci beaucoup Michel. Effectivement, bon, c'est Romuald qui est à l'initiative hein, de cette de ces 2 journées et cette formation. Il m'a demandé de dire quelques mots au nom de l'UMR. Je ne vais pas présenter l'UMR. Bon, c'est une unité mixte de recherche, donc qui est basée à l'INRP et qui comprend de nombreux enseignants chercheurs de l'université Lumière Lyon 2, mais aussi des chercheurs situés sous d'autres cieux, comme Martine Raymond qui est à l'UFM de Créteil, d'autres collègues qui sont à l'UFM de Lyon. Ou de Dijon, etc. Bon. Les recherches sont assez nombreuses. L'idée centrale d'éducation et politique étant d'avoir une double approche, c'est-à-dire une approche très très proche du terrain qui cherche à saisir les logiques des acteurs, leur multiplicité, la façon dont elles jouent les unes sur les autres, et une approche qui est souvent socio-historique qui va chercher à référencer ces logiques d'action et à faire un petit peu l'investigation du sens ordinaire de qu'est-ce qui est juste en matière d'éducation et de formation. Et ce sens ordinaire, évidemment, il est constitué par la sédimentation de débats parfois très anciens et très anciens ou pas très anciens. Et Bruno Garnier et ça n'est pas de ça qu'il va parler dans ces 2 jours, mais enfin c'est spécialement consacré à l'histoire des rhétoriques politiques, et il va très très bientôt la publier, un des grands classiques du débat de justice en éducation, qui est le manifeste des compagnons de l'Université Nouvelle, une des sources du Collège Unique. Alors, je ne vais pas m'apesantir plus sur la présentation de la diversité des thèmes traités dans l'UMR. Je vais plutôt essayer d'expliquer comment nous entrons, nous, dans cette problématique qui lie évaluation et socle commun, ou évaluation, je dirais, et projet curriculaire, contenu de l'enseignement, etc. Alors, c'est une entrée. Enfin, le fait de lier les deux n'a rien de très original. Si on se reporte, par exemple, au travail d'une autre équipe de l'INRP, qui est le service d'histoire de l'éducation, qui a développé un important volet sur l'histoire des disciplines scolaires, et en particulier un numéro tout à fait pilote de la revue d'histoire de l'éducation qui avait été dirigée par André Chervel, quand on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une discipline, Chervel explique bien que quand on cherche à définir une discipline, la question de l'évaluation et de la question du choix et de l'organisation des contenus sont absolument indissociables. C'est-à-dire que une discipline, avec l'idée qu'il y a d'exercice, enfin d'exercitation, se définit certes par des contenus, mais aussi par la façon d'évaluer, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre quelque chose, il s'agit surtout de s'exercer à faire. Et là aussi, l'histoire des disciplines montre bien que la conception de la discipline est très très pilotée historiquement par cette évaluation terminale que constitue l'agrégation. C'est-à-dire que c'est en voyant évoluer l'agrégation qu'on voit comment évoluent les disciplines. Alors donc ça, c'est une chose assez classique, qui influence l'histoire de l'éducation, qui influence aussi, pour le peu qu'elle existe, la sociologie du curriculum qui a pu exister en France, et en particulier celle qu'avait développée, je dirais pas dans nos murs, mais dans nos murs parisiens, Jean-Claude Forquin. Pour ce qui est du thème particulier d'aujourd'hui, il y a une autre source et qui sera sans doute présentée dans ces jours, et présentée en particulier par Romuald, qui est que les conceptions de l'évaluation et la conception des compétences, du socle commun qui vont être présentées, correspondent à un changement de référentiel qui a commencé dans les années 80 aux États-Unis, et que nous avons étudié, nous, du point de vue des philosophies de la justice. C'est-à-dire que à partir des années 80 aux États-Unis, à partir en particulier du rapport Nation-Attrisk en 83, bien le référentiel des politiques d'éducation change. Le rapport Nation-Attrisk explique, qui est extrêmement sévère vis-à-vis des politiques des présidences démocrates de compensation, d'aide aux minorités, etc., dit grosso modo, le principal problème de l'éducation et de la formation, ça n'est pas de viser l'égalité à l'intérieur d'une société, c'est de faire que le pays garde son rang, et même si possible l'améliore, dans la compétition internationale. Et donc, à partir de ce moment, donc ce référentiel se met en place, et l'ensemble des politiques d'éducation, aussi bien la définition des contenus, les compétences, etc., que l'évaluation, se définissent à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exigence de performance ou le pilotage par les résultats. Et c'est dans ce référentiel, dans cette optique, que se définissent aussi bien une nouvelle conception des savoirs qui vont tendre justement vers des standards de compétences internationaux, qui prennent donc les traditions de programmes, même de curriculum des différents pays, qui les prennent de biais, puisque l'important, c'est de savoir où on en est au point de vue de la concurrence internationale. Il faut des standards internationaux qui permettent, avec l'aide de grandes enquêtes comme PISA, de savoir où en est le pays au point de vue de ses résultats. Et à partir de là, se met effectivement en place une politique de régulation par benchmarking, c'est-à-dire que on sait où on en est, et les pays qui ne sont pas bien placés sont invités à identifier les bonnes pratiques des pays qui sont bien placés et à les imiter, enfin, ou les démarquer, etc. Donc, Dans cette nouvelle conception des politiques d'éducation, on voit bien que la conception des benchmarks, la conception des standards de compétences et l'évaluation sont une seule et même chose. On a toujours eu tendance à enseigner de l'évaluable et à se normer par rapport à cela, mais là, plus que jamais, les politiques d'évaluation soumises donc à cette contrainte de résultat conçoivent et gèrent en même temps la définition des standards et l'évaluation. Et ben, cette politique de benchmarking qui donc s'est installée dans les années 90 aux États-Unis, vous savez que elle est la politique choisie à partir de 2000, à partir de la conférence de Lisbonne, par la communauté européenne, avec cette innovation, puisque normalement la communauté européenne n'a pas d'autorité sur les politiques d'éducation qui sont du domaine des États, mais c'est un consensus, les 17, je crois que c'était 17 à Lisbonne, convergent pour s'engager à se rendre mutuellement compte, ayant fixé cet objectif que l'Europe occupe la première place dans une économie de la connaissance en 2010, bien, s'engagent pour atteindre cet objectif à se rendre mutuellement compte de leur performance, ce qui met naturellement en place un système de benchmarking qui progresse doucement. Enfin, vous voyez, la décision est prise en 2000, évidemment, l'application n'est pas simple, et je ne sais pas si nous l'évoquerons dans ces journées, mais on voit bien, par exemple, la LOLF est votée en 2005, elle commence à être mise en application en 2006, et on est très loin pour l'établissement scolaire, par exemple. On se rend compte maintenant que c'est un filet qui ne retient quasiment rien, qui a donc encore du travail à faire. Donc ces politiques mettent du temps à se mettre en route, mais elles se mettent en route. Alors, ce dont on va, me semble-t-il, au travers en particulier du travail de Romuald, essayer peut-être de rendre compte aussi aujourd'hui, c'est de l'évolution de ces politiques d'évaluation dans le domaine du traitement des établissements et du traitement du développement professionnel des enseignants. C'est-à-dire que si on prend, je ne dirais pas l'exemple ou le contre-exemple, je ne sais pas, américain, les premières manifestations de recherche de l'efficacité, ce qu'on appelle l'école de la school effectiveness, étaient des méthodes assez brutales et assez extérieures, si je puis dire, aux établissements. C'était principalement, pour les enseignants en particulier, des incitations financières, c'est-à-dire ceux qui ont de bons résultats reçoivent des primes. Pour les établissements, il y avait effectivement un certain nombre d'incitations, et il y avait aussi la possibilité, si vraiment un établissement persistait à avoir de mauvais résultats malgré des aides qu'on lui apportait, etc., la possibilité de fermer l'établissement et de redispatcher ses élèves dans d'autres établissements avec un soutien approprié pour qu'ils s'y intègrent, etc. Mais je dirais que ces méthodes brutales et un petit peu extérieurs ont montré leurs limites, leur principale limite étant la fuite. C'est-à-dire que les enseignants que les élèves fuient devant cette pression brutale de l'évaluation. Donc aujourd'hui, le courant dominant, enfin le courant en particulier qui a été dominant dans la nouvelle conférence de Lisbonne qui a eu lieu à l'automne dernier, et où la communauté européenne a mis au point son programme Modernizing the School qui va jusqu'en 2011, l'orientation dominante, c'est ce qu'on appelle le school improvement, le développement des établissements. C'est-à-dire non plus une pression en quelque sorte extérieure et passant par une incitation financière dont on a bien vu les limites, voire les effets pervers, mais passant par une action beaucoup plus proche, alors d'abord beaucoup plus située, beaucoup plus proche des établissements dans ce qu'ils ont de spécifique, dans les difficultés qu'ils rencontrent, cherchant à mettre au point une espèce d'accompagnement de la maîtrise que l'établissement peut avoir de lui-même, c'est-à-dire développer bien sûr des instruments d'évaluation de la performance de l'établissement, mais développer en même temps, dans le développement professionnel des enseignants, la capacité à maîtriser ces instruments pour, évidemment, améliorer la performance de l'établissement. Alors cela réagit bien sûr sur la conception du développement professionnel des enseignants, dont l'évaluation, que ce soit dans la classe, passer de l'évaluation des apprentissages à l'évaluation pour les apprentissages, ou que ce soit intégrer dans la culture professionnelle des enseignants les indicateurs de performance de l'établissement. Mais ça réagit aussi et forcément sur la conception du curriculum, c'est-à-dire une certaine façon de s'emparer localement des définitions nationales, voire internationales, des compétences, etc. Et ça modifie aussi profondément le style de management, puisque les enseignants s'appropriant un certain nombre d'indicateurs de fonctionnement de l'établissement et l'intégrant à leur culture professionnelle, on va vers des styles de leadership distribués, vers d'autres formes de management de l'établissement et d'autres formes de relations entre l'établissement et la classe. C'est autour de cela, me semble-t-il, que se joue quelque chose d'important auquel nous essayons de travailler dans ces deux journées. Rapprocher évaluation et socle commun, compétences clés, standards de compétences, il y a, me semble-t-il, un même mouvement qui tend à enrichir l'environnement cognitif de l'action pédagogique, que ce soit celle de l'enseignant dans la classe, du chef d'établissement, des cadres d'éducation, IEN, inspecteurs d'académie, etc., par la création de toutes sortes de nouveaux instruments pour saisir, évaluer l'action. Et je dirais que c'est une direction dans laquelle l'UMR Éducation et Politique s'est engagée, avec des formations liés à l'ESN, qui vont sans doute se développer, et aussi dans des recherches-développement nous menons pour le moment surtout avec le PASI de Lyon et qui devrait se développer à Nantes et à Paris dans les années prochaines, puisque, bien entendu, une telle opération doit mener de pair des opérations de formation, des journées d'études un petit peu détachées du terrain, et sans doute des opérations d'accompagnement, au contraire, très proches du terrain dans des recherches-développement. Voilà. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, et je vous prie de m'en excuser.
Bien. Mais moi, je continue en présentant les trois grands objectifs, finalement, de ces deux journées de formation. Quand on a discuté avec Michel Bois sur la façon dont on pouvait mettre en œuvre des journées de formation utiles pour les formateurs et les praticiens, la question de l'articulation entre socle commun et évaluation ne se posait pas véritablement encore dans le débat public. Elle se pose peut-être de plus en plus, mais c'était pas une préoccupation forte des acteurs de l'éducation. Donc il a fallu construire quand même ces deux journées de formation. Et évidemment, comme l'a dit Jean-Louis Derouet, il nous a semblé intéressant de sortir un petit peu du contexte français et de situer cette question de l'évaluation dans une conjoncture internationale. Alors je vais pas revenir sur ce qu'a dit Jean-Louis Derouet. Enfin, on peut quand même dire que aujourd'hui, on s'interroge de plus en plus sur un effet PISA, notamment dans l'enseignement scientifique, puisque notre ministre de l'Éducation nationale s'est saisi des résultats PISA et a même été voir en Lettonie les bonnes pratiques pédagogiques pédagogiques pour voir si elles étaient transposables en France. Récemment, vous avez sans doute vu dans la Revue française de pédagogie qu'il y avait des débats entre les chercheurs sur l'utilité de PISA, la façon dont on mesurait les apprentissages des élèves. Et il y a deux contributeurs ici, Pierre Vrignot et Martine Raymond, qui ont contribué à ce numéro spécial. Les PISA, les compétences de base, ça devient, comme l'a dit Jean-Louis, un outil de la méthode ouverte de coordination, hein, cette stratégie de Lisbonne qui contribue à aligner les politiques d'éducation, et la France s'est engagée aussi dans cette stratégie de Lisbonne. Puis il faut bien le dire, l'idée de compétences de base et leur évaluation, bien ça part du rapport Nation at Risk aux États-Unis, et on peut dire que d'une certaine manière, les États-Unis, enfin l'Angleterre, un certain nombre de pays anglo-saxons ou même d'organisations internationales ont réfléchi depuis une vingtaine d'années et ont appris aussi sur le développement de l'évaluation des compétences et l'articulation de l'évaluation des compétences avec les questions curriculaires, avec les programmes scolaires. Donc il nous semblait intéressant de sortir de ce débat franco-français sur socle commun. Alors évaluation, on en parle assez peu. Quand je discute avec un chercheur américain, il me dit « Ah, culture de l'évaluation, vous êtes bien tous les mêmes, les Français, quand vous avez un objet que vous n'arrivez pas à définir, à travailler, vous apposez le terme culture dessus. » Alors culture de l'évaluation, culture commune, ça les surprend évidemment. Alors après, quand je leur explique qu'on s'approche d'une politique des basic skills, des compétences de base, et que je leur dis qu'on appelle ça, en traduisant en anglais, socle commun et pilier de compétences, il me dit « Ah, mais ça doit être l'effet d'un complot franc-maçonnique au sein du ministère de l'Éducation français ». Donc vous voyez, il y a évidemment tout un travail à faire pour rapprocher ces deux cultures, et on va essayer de le faire aujourd'hui à travers cette ouverture à l'international. Bon, si on revient dans le contexte français, ce qui nous a intéressé aussi, c'est d'interroger aussi cette permanence et ce maintien de la notation des élèves parmi les pratiques pédagogiques des enseignants. Bon, ça, c'est pas nouveau, et il y a une succession de rapports de l'inspection générale qui ont montré que finalement, cette culture de l'évaluation n'était pas très bien diffusée dans le système éducatif français, que majoritairement les enseignants avaient des pratiques traditionnelles de la notation, et que ça interrogeait finalement la place de l'évaluation dans l'établissement scolaire et dans la classe, à l'heure où loi de modernisation de l'école oblige et fixer une obligation de résultat au système éducatif, on demande à ce que les élèves atteignent des compétences de base à l'issue de la scolarité obligatoire, mais qu'on ne sait pas très bien comment on va pouvoir évaluer l'atteinte des résultats ou cette augmentation des compétences de base des élèves. Alors il y a des outils d'évaluation qui existent, mais ces outils d'évaluation, et on avait fait un rapport en son temps pour la direction de l'évaluation et de la prospective, qui s'appelait la direction de la programmation et du développement à l'époque, en montrant finalement que les évaluations nationales et les banques outils qui étaient mis à disposition des enseignants sur les sites du ministère de l'Éducation nationale et de l'ADEP étaient finalement peu utilisés et souvent détournés par rapport à ce qui avait présidé à leur conception à l'origine. Donc quels usages de ces évaluations, quelles évolutions, et puis surtout quelle articulation entre ces différentes formes d'évaluation, entre la notation des élèves, entre les évaluations nationales, les banques outils, le développement prochain et annoncé du livret de compétences des élèves, cette question de l'articulation de l'évaluation et aussi de l'information sur la réussite des élèves est une question évidemment qui devient essentielle, mais qui interroge aussi bon nombre de pays aussi à l'étranger au niveau international. Donc il était intéressant d'opérer ce rapprochement. Donc vous l'avez compris, alors si je présente un petit peu les thématiques de ces deux journées, c'est évidemment une approche internationale qui nous guide, mais avec le souci d'apprendre des autres, d'apprendre de leurs différences, parce qu'on est prophète finalement que dans son propre pays. Bon, il ne s'agit pas de transposer des modèles en montrant les bonnes pratiques qui pourraient se faire dans d'autres pays, c'est pas du tout ça, mais essayer de réfléchir à ces expériences qui ont été conduites au niveau international ou dans certains pays anglo-saxons, et de montrer en même temps comment ces pays ont appris aussi de leurs échecs, parce qu'il y a eu des échecs dans la mise en œuvre de stratégies d'évaluation dans ces pays, interroger aussi à partir de là l'existant en France et voir éventuellement si on peut réfléchir à des pistes d'amélioration qui permettraient de placer l'évaluation plus au centre du système éducatif français, et puis interroger plus largement, comme l'a dit Jean-Louis de Rouet, ce référentiel, ce nouveau référentiel qui passe par l'évaluation, mais pas uniquement par l'évaluation, et qui modifie en profondeur le rapport que les enseignants peuvent avoir à la réussite des élèves. Alors, ce matin, nous aurons donc deux interventions de aux spécialistes de la psychologie des apprentissages, donc notamment Pierre Vrignaud, qui est l'auteur avec Norberto Bottani d'un rapport pour le Haut Comité d'évaluation de l'école, la France et les évaluations internationales, et qui nous situera justement cette question de l'évaluation en France par rapport à cet environnement international. Martine Raymond, qui est une experte, qui a été experte auprès de l'OCDE et auprès de l'ADEP sur les questions de littératie, s'interrogera sur l'apport de PISA et les limites de PISA en termes d'évaluation des compétences des élèves. Et puis on enchaînera l'après-midi sur un exposé de Bruno Garnier, qui a contribué à la fabrication du rapport dont je parlais tout à l'heure pour la DPD sur quelle culture de l'évaluation parmi les enseignants et comment se diffusent les évaluations nationales auprès des enseignants du primaire, mais aussi des enseignants du secondaire en mathématiques et en français. Et il situera ce travail qu'on a réalisé dans une approche historique sur comment cette question de l'évaluation et cette question du livret de compétences se rattache à une histoire du collège unique et une histoire du système éducatif français. Et puis moi, j'interviendrai à partir de ce concept nouveau qui devient une espèce de référence internationale de l'évaluation pour les apprentissages, ou assessment for learning, enfin j'ai traduit évaluation pour les apprentissages, qui devient une référence dans les milieux de la recherche sur l'évaluation au niveau international, mais qui a nourri aussi un certain nombre de stratégies nationales pour l'évaluation qui ont été conduites dans un certain nombre de pays, et je prendrai l'exemple de la Nouvelle-Zélande, j'illustrerai à partir de l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Et puis donc les ateliers de jeudi après-midi porteront... De jeudi matin, reprendront, alors l'un, l'évaluation pour les apprentissages, donc ce sera l'approfondissement de la conférence que je tiendrai cet après-midi. Un autre qui sera conduit sur l'auto-évaluation d'établissement, réflexion à partir de l'expérience écossaise, par Yvon Thévenot, et qui vise à situer cette question de l'évaluation de la réussite des élèves dans le contexte plus large de l'évaluation d'établissement scolaire, en essayant de montrer comment, notamment à partir de l'exemple de l'Écosse, comment dans le monde anglo-saxon on a réfléchi justement à cette dimension de l'évaluation pédagogique des établissements scolaires et pas uniquement de l'évaluation de la performance. Et puis Martine Raymond, à partir de son expérience sur la littératie, essaiera d'illustrer l'articulation entre évaluation et curriculum, entendez les programmes scolaires, et comment on peut réfléchir à un certain nombre de difficultés qui sont posées par les élèves, comment on peut les évaluer et comment cela est déterminant pour véritablement mettre en œuvre une progression pédagogique. Et puis on finira sur une table ronde avec l'intervention de Roger-François Gauthier et Florence Robine, qui sont deux inspecteurs généraux qui ont tous deux écrit des rapports assez importants. L'un, l'évaluation des acquis des élèves, Pierre de Touche de l'école, qui montre justement les limites de l'usage de l'évaluation par les enseignants et le fait qu'il faudrait sans doute renforcer cet usage de l'évaluation. Pour eux, ça c'est le rapport de Roger-François Gauthier. Et puis le rapport de Florence Robine, qui a récemment conduit une enquête internationale dans des espaces francophones pour essayer de voir quels étaient les intérêts et les limites d'une approche par les livrets de compétences de l'évaluation des élèves. Et puis on aura Éric Larcher qui est donc formateur, enfin qui est responsable de la formation à l'ESN et qui s'intéresse depuis quelques années à cette question de l'articulation entre évaluation et socle commun. Et puis Francis Béguin qui est chef d'établissement dans l'Académie de Clermont-Ferrand mais qui a une longue expérience puisqu'il a été directeur de cabinet d'un recteur de Clermont-Ferrand, Alain Bouvier, pour ne pas le citer, de plusieurs recteurs, et qui a une longue expérience à la fois de la formation, de la recherche, et qui nous présentera son point de vue de chef d'établissement sur ces questions de l'évaluation et la place de l'évaluation dans l'établissement scolaire. Voilà, eh bien, bonne continuation. Et puis on peut passer à nos deux intervenants.